Info Week-end, c'est avec vous Isabelle Beltier.
L'incendie criminel de la synagogue de la Grande Motte dans l'Hérault est un acte terroriste, c'est ce qu'a déclaré le président de la République Emmanuel Macron. En Allemagne, l'attaque au couteau qui a fait 3 morts et 5 blessés graves à Solingen dans l'ouest du pays est revendiquée par l'État islamique.
Pour le solaire,
de blocage de la CCAT prévu à Poindimier lundi, elle est contraire aux aspirations de la population et représentative d'une stratégie du chaos pour le maire de Poindimier. Démarrage un peu frileux hier pour les soldes d'hiver, mais les clients étaient malgré tout au rendez-vous des bonnes affaires. Le dernier adieu à un monstre sacré, des centaines de fans se sont rendus à Douchy pour les funérailles d'Alain Delon. Le sport du football, Monaco s'impose à Lyon pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Et en Calédonie, c'est du tennis cet après-midi avec la finale du club du Receiving. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. L'incendie criminel de la synagogue de la Grande Motte dans l'Hérault est un acte terroriste. C'est ainsi que l'a qualifié Emmanuel Macron, qui affirme que le combat contre l'antisémitisme est un combat de chaque instant. Rappelons qu'un policier a été blessé dans l'explosion. Elle est survenue hier soir pour nous. Un homme a incendié 2 véhicules devant l'édifice. Alexis Bourdon se trouvait sur place pour Europe 1.
Le quartier est totalement bouclé. Des équipes de la police municipale nationale ainsi que des membres de la gendarmerie empêchent quiconque de pénétrer dans le périmètre. Tout autour, de nombreuses personnes attendent la levée du blocage pour rejoindre leur logement. Tous ont décrit un bruit sourd aux alentours de 8 heures ce matin avec une épaisse fumée noire dans le ciel. Et d'ailleurs, une odeur de brûlé persiste presque toujours quelque peu. C'est une habitante des locaux de la synagogue qui a prévenu à 8h20 la gendarmerie de la mise à feu de bonbonnes de gaz. Elles se trouvaient dans des véhicules appartenant aux locataires de l'édifice religieux. Elles étaient notamment destinées à un barbecue que devait organiser la communauté juive. Mathieu, lui, est responsable de l'hôtel qui se situe à une rue de l'édifice. Et malgré l'émotion, le dispositif de sécurité rapidement mis en place par les forces de l'ordre le rassure.
On sait que c'est vers chez nous, que c'est à côté de chez nous, dans la rue d'à côté. On sait que voilà, ça se rapproche et que voilà, faut faire attention, faut rester vigilant et prudent pour pas montrer des lents de panique pour notre clientèle, par exemple, à l'hôtel. Leur dire qu'il faut faire attention, mais que c'est sous contrôle, c'est pris en charge par les autorités de l'État et la police. Donc on est confiant pour que ça se passe au mieux.
Suite à cette attaque, Gérald Darmanin a demandé sur X à tous les préfets le renforcement immédiat des gardes statiques devant les lieux de culte juifs.
Alexis Bourdon, le correspondant pour Europe 1 dans la région. Le suspect est activement recherché. L'enquête progresse assez vite. Un individu a été filmé par les caméras de vidéosurveillance de la synagogue. On le voit quitter les lieux de l'incendie. Il apparaît à visage découvert, portant un kéfir rouge sur la tête avec un polo bleu. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat terroriste par le parquet national antiterroriste. Le président de la République a affirmé que tout était mis en œuvre pour retrouver l'auteur de cet acte dans un post sur X. Le Premier ministre Gabriel Attal s'est lui rapidement rendu à la Grande Motte aux côtés du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il a salué la très grande réactivité des forces de l'ordre et de secours. Gabriel Attal s'est exprimé devant la synagogue Beit Yaakov.
Nous avons probablement évité un drame absolu, mais ce qui s'est passé ici choque et scandalise, je le sais, toutes les républicaines et tous les républicains de notre pays. Parce que la réalité, c'est que c'est tous ensemble, par-delà les clivages politiques, que nous devons systématiquement nous dresser face à ces actes. Et rappeler systématiquement également que derrière la violence verbale, il y a ensuite bien souvent la violence physique. Et rappeler donc chacune et chacun à leur très grande responsabilité dans les mots qui sont employés, dans les propos qui sont tenus, dans les positions politiques qui sont prises, et appeler chacune et chacun à se dresser avec nous contre l'antisémitisme quand surviennent de tels actes.
Le Premier ministre Gabriel Attal, large condamnation encore dans la classe politique. L'antisémitisme n'est pas résiduel, il est un fléau, a écrit sur les réseaux Aurore Berger en écho aux propos de Jean-Luc Mélenchon, le chef de file des Insoumis, qui a dénoncé, je cite, un crime intolérable, la France insoumise, ciblée par le député local de l'Hérault, Charles Alloncle, un proche d'Éric Ciotti. Il accusait les filles par ses prises de position sur la guerre à Gaza d'être, je cite, le carburant de l'antisémitisme. Direction l'Allemagne à présent et la ville de Solingen. Endeuillé sous le choc après une attaque au couteau lors d'un concert hier. Bilan, 3 morts, 5 blessés. La piste terroriste est en ville. On écoute Wilfried de Villers. La police allemande cherche encore l'auteur des faits. Un suspect en lien avec l'affaire aurait été arrêté.
Oui, il s'agit d'un adolescent de 15 ans interpellé en début d'après-midi. Il est suspecté de non-dénonciation. Selon le site d'information allemand Focus, il aurait été en contact avec l'auteur de l'attaque. Il lui aurait fait part de son projet. Des témoins assurent avoir entendu l'assaillant lui dire « Aujourd'hui, je poignarde tout le monde ». Alors pour l'instant, on sait encore très peu de choses sur le profil de l'auteur de ces coups de couteau en plein concert hier soir. Le témoignage de l'adolescent devrait permettre à la police d'en savoir plus et de dresser son portrait robot alors qu'elle ne dispose pour le moment d'aucune image nette de l'assaillant, lui qui a profité de l'obscurité et d'un mouvement de panique dans la foule pour prendre la fuite. Selon les premiers éléments de l'enquête et au vu des blessures des victimes, il s'agirait d'un homme expérimenté dans l'usage des armes blanches. Les enquêteurs ont également interrogé aujourd'hui les témoins, les victimes de l'attaque pour tenter d'en savoir plus sur ses motivations. Vous le disiez, un acte terroriste ne peut pas être exclu, c'est ce qu'a indiqué tout à l'heure le procureur Marcus Kaspers. Le centre-ville de Solingen est toujours bouclé par les forces de l'ordre qui passe la zone au peigne fin. Le journal Der Spiegel affirme que la police aurait retrouvé l'arme présumée du crime dans une poubelle. Un couteau taché de sang. La chasse à l'homme se poursuit pour retrouver rapidement l'auteur de l'attaque.
Les explications de Wilfried de Villers pour Europe 1. Et l'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique pour, je cite, « venger les musulmans de Palestine ». Et d'ailleurs, il est 7h06, nous marquons une première pause dans ce journal avant d'aborder la suite de l'actualité sur le territoire avec d'abord ce communiqué de Paul Néoutine qui fustige les actions de la CCAT. On se retrouve après une courte page de pub.
RRB.
Nos boîtes mail Lagoon étant inaccessibles pour le moment, nous vous informons que vous pouvez envoyer vos mails à l'adresse suivante rrb@rrb.nc. Information, publicité, programmation, avis de décès, avis et communiqué, une seule adresse. rrb@rrb.nc.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
Info week-end, la suite, Isabelle Pelletier.
L'actualité en Nouvelle-Calédonie, Paul Néoutine très critique à l'égard de la CCAT. Le maire de Point-d'Imy publie un communiqué très offensif dans lequel il dénonce une action de la CCAT prévue sur sa commune, Michael Gineski.
Oui, Paul Néoutine indique que la CCAT a déposé vendredi un communiqué à la mairie dans laquelle elle annonce lundi prochain une journée morte à Point-d'Imy en hommage aux jeunes originaires de Canala tués par un tir de riposte de la gendarmerie le 15 août. Une initiative vivement condamnée par Paul Néoutine qui rappelle, je cite, que le décès de ce jeune relève de la responsabilité des relais CCAT concernés ainsi que de leur donneur d'ordre qui se couvre du drapeau kanaki et usurpe le sigle FLNKS dans une stratégie du chaos décidée par une seule composante du FLNKS. Sur mes 35 années de mandature, poursuit Paul Néoutine, la mairie a été en concertation régulière avec les autorités coutumières et les différentes organisations et structures représentatives de la population communale. Et les structures de la CCAT n'en font pas partie, ajoute le maire de Point-d'Imy. Visiblement plus qu'agacé, le maire de Point-d'Imy dénonce cette opération prévue lundi par la CCAT, décidée unilatéralement, dit-il, et contraire aux aspirations de notre population. Et il interpelle les services compétents de l'État pour dégager les points de blocage annoncés et permettre la libre circulation, notamment pour le transport scolaire. Le ton employé par Paul Néoutine traduit donc un agacement, voire une certaine colère à l'encontre de la CCAT. Il confirme en tout cas les vives tensions qui existent aujourd'hui au sein du FLNKS. Elles étaient apparues au grand jour lors du congrès avorté de Netshaut et semblent donc toujours très vives, notamment entre l'UC qui semble s'aligner de plus en plus sur la CCAT et le PALICA. Le congrès du FLNKS qui devrait se réunir dans une semaine s'annonce visiblement compliqué.
Un nouveau président à la tête du Sénat coutumier. La passation de flambeau avait lieu hier samedi au siège de l'instance à Nouville-Michel.
De l'ère Adjuare succède à Victor Goni de l'ère Yaï. À 65 ans, le nouveau président de l'instance coutumière a pris ses fonctions à l'issue d'une cérémonie qui se tenait tout au long de la journée dans un climat très particulier. Mais les danses, les chants et les prières ont conclu les prises de parole. Et Loagoé appelle avant tout à l'apaisement.
Le message premier, c'est un appel à l'apaisement. Un appel à se retrouver autour de la table, quelles que soient les responsabilités, pour porter le même message d'apaisement, aussi un message de construction. C'est pour ça qu'on encourage l'ensemble de nos responsables, particulièrement les politiques. Le principe de la gestion du gouvernement par la collégialité, c'est un principe qu'il faut saluer. C'est un principe qu'il fallait, on ne pouvait pas faire autrement. Donc je pense qu'on est là-dessus. La collégialité, la traduction dans le monde coutumier, dans le discours coutumier, c'est le consensus. C'est un consensus. Pas de vainqueur, pas de vaincu, mais chacun avance.
Les protocoles qui auraient dû se dérouler à Ouvéa, si ce n'était la crise actuelle, ont été marqués par une grande émotion, étant donné la situation que traverse la Calédonie. Le Sénat coutumier emporte lui aussi les stigmates. Pour le président sortant, Victor Gogny, c'est la fin d'un mandat qui aura été plus que compliqué depuis la destitution du Gvemavé jusqu'à la démission de l'ancien président Hippolyte Sinewami, en passant par la crise insurrectionnelle.
C'est ensemble que nous devons relever la tête. Il est vrai qu'il y a eu cette crise insurrectionnelle, une violence qui est là au préalable. Le pays il est déjà baigné dedans depuis maintenant 3 mois. Mais on doit, tout le monde, pouvoir se serrer les coudes et puis partir ensemble, pouvoir sortir par le haut.
S'il vous était donné la possibilité de faire un bilan, ça a été une mandature plus que compliquée ?
Non, c'est compliqué. Donc, au vu de, déjà, au bout de la longévité de cette mandature, hein, donc 1 an et demi, c'est pas courant. C'est peut-être la première fois, mais bon, on était là. Hein, donc, il y a eu des crises internes, mais je suis content parce qu'on a pu relever la tête et repartir avec tout le monde.
Était notamment présent au Sénat coutumier le président du Congrès, Roquoy Mitan, ou le président du gouvernement en charge des affaires coutumières, Louis Mapou. Lors des différentes prises de parole, chacun a rappelé qu'il s'agissait de la dernière mandature du Sénat coutumier, né de l'accord de Nouméa après 24 années d'existence.
7h12, une seconde pause dans ce journal et nous irons d'abord à Douchy, dans le Loiret, où se sont déroulées les obsèques d'Alain Delon. A tout de suite.
Ah, ces assurances! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Du 25 au 29 août, c'est la semaine de l'eau. Rejoignez-nous pour célébrer et protéger cette ressource précieuse. Participez au quiz eau sur la page Facebook d'Aquanor et gagnez plein de cadeaux. Aquanor, l'eau qui nous unit. RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Isabelle Pelletier.
Avec le dernier adieu à Alain Delon, comme le voulait l'acteur, ses obsèques avaient lieu cette nuit pour nous, sans hommage national dans son domaine, sur son domaine de Douchy, dans le Loiret. Johan Madec était devant les portes de la propriété de l'acteur. Pour Europe 1, une quarantaine d'invités triés à la volée, mais les fans, eux aussi, étaient venus dire un dernier adieu à distance.
Oui, c'est ça, pour ce dernier adieu, ils sont nombreux à être venus, mais donc devant les grilles du domaine de la brûlerie, puisque c'était impossible de rentrer à l'intérieur. D'ailleurs, parmi cette quarantaine d'invités qui a pu rentrer, là, à l'instant, au moment où je vous parle, on voit sortir certains d'entre eux, mais vous voyez, c'est très peu accessible, ils sont vraiment dans des très grosses voitures et passent, et il y a assez peu d'échanges avec la foule, qui donc, disons, a un peu fait son propre hommage sur ce grand portail de l'entrée depuis ces derniers jours. Les grilles sont recouvertes de fleurs, de photos signées. Il y a même des gants de boxe. En fait, chacun ici est venu déposer ce qui incarnait son lien personnel avec Alain Delon. Mais bon, reste que tout ça, ça n'empêche pas qu'il soit impossible pour les anonymes présents ici d'assister à la cérémonie. Et ça crée un peu le débat parmi les gens qui sont présents. Certains, comme Michel, que j'ai rencontré tout à l'heure, sont assez frustrés.
Il voulait être seul, qu'il n'y ait personne, d'accord. Mais la foule, elle est là. On ne peut pas la retenir. Donc, il aurait fallu au moins qu'il y ait un écran pour qu'on puisse voir ce qui se passe.
D'autres, à l'inverse, comme Fred, trouvent que ça faisait partie des volontés d'Alain Delon et de ses proches, et que donc ça devait se passer comme ça.
Après, d'être sous les médias pendant pratiquement plus de 60 ans, pendant toute sa carrière, je pense qu'à un moment, l'intimité de la famille, c'est ce qui compte le plus, je pense, pour se recueillir. Donc moi, je comprends très bien.
Mais malgré ces quelques plaintes, ça n'empêche pas que tous restent là, certes pendant quelques minutes, mais surtout pendant des heures. En fait, tout le monde discute, la manière dont Delon l'a marqué, la manière dont ils vont se souvenir de lui. Par exemple, Lali, une photographe, a été très marquée par lui dans sa jeunesse.
Je suis née au Pérou et depuis toute petite, j'assistais à des ateliers de cinéma et j'ai presque appris le français avec ces films et avec ces images. Alors pour moi, ça représente beaucoup.
Et pour que chacun puisse laisser une trace, au milieu de la foule, il y a plusieurs carnets de condoléances à disposition. Depuis ce matin, tous ceux qui font le déplacement jusqu'ici le signent, c'est un peu l'attraction principale. Un employé des pompes funèbres me glissait par exemple que depuis ce matin, ils en étaient à plus de 35 carnets remplis par les personnes venues ici.
Voilà ce dernier adieu à Alain Delon avec ce reportage de Johan Madec depuis Douchy dans le Loiret pour Europe 1 devant la maison d'Alain Delon. Alain Delon qui a été donc inhumé cette nuit pour nous. Dans l'actualité internationale encore, retour sur ce rebondissement politique aux États-Unis dans la course à la présidentielle. Robert Kennedy Jr. s'est retiré de la course. Le neveu de l'ancien président américain assassiné a donné son soutien à Donald Trump alors qu'il avait tenté un temps il y a quelques mois de briguer l'investiture démocrate face à Joe Biden, même du haut de ses moins de 5% dans les sondages, cela pourrait avoir une incidence dans une présidentielle très serrée. Explication d'Anne Toulouse, la correspondante d'Europe 1 à Washington.
Au lendemain de la convention démocrate, c'est un nouveau coup de théâtre et la grande question est de savoir dans quelle mesure le désistement de Robert Kennedy en faveur de Donald Trump va changer la dynamique de l'élection. Sur le papier, ses voix effacent l'avantage de Kamala Harris. Les derniers sondages lui donnaient 4% d'intention de vote nationalement et entre 2 et 5% dans des États qui sont la clé de l'élection comme le Michigan, l'Arizona ou la Pennsylvanie. Mais Robert Kennedy n'est pas propriétaire de ses électeurs potentiels et ils doivent le suivre dans son argumentaire, qui est que le Parti démocrate a cessé d'être celui de la démocratie. Bien que Robert Kennedy soit depuis longtemps séparé de sa famille, c'est tout de même un choc d'entendre quelqu'un portant son nom dire « Mon oncle le président et mon père auraient été choqués par la façon dont le débat a été escamoté par le Parti démocrate ». Il a quelques raisons de s'en plaindre, puisque celui-ci a tout fait pour lui barrer la route et a attaqué en justice à plusieurs reprises ses démarches pour être candidat, ce qui lui donne un sentiment de proximité avec Donald Trump.
Les explications d'Anne Toulouse pour Europe 1. Et puis samedi 24 août, c'était le jour de la fête de l'indépendance de l'Ukraine, de l'Union soviétique. Volodymyr Zelensky a promis des représailles à la Russie alors que Kiev a lancé une offensive dans la région russe frontalière de Koursk et que les troupes russes continuent d'avancer dans l'est de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a aussi promulgué la loi interdisant l'église orthodoxe ukrainienne liée à Moscou. Une troisième pause dans ce journal et nous reviendrons sur l'actualité calédonienne avec le lancement des soldes de la saison fraîche dont le coup d'envoi a été donné hier et puis la brocante de la Spank. On se retrouve après une petite page de pub.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Spécial info-jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Isabelle Beltier.
Avec les soldes de la saison fraîche qui ont démarré hier, une période promotionnelle habituellement très attendue des commerçants autant que des consommateurs avec des remises pouvant aller jusqu'à moins 70%. Cette année, en raison de la crise insurrectionnelle et du contexte économique, les soldes se déroulent dans un climat particulier. Violaine, gérante de la boutique de prêt-à-porter féminin Perlei à Nouméa.
Pour l'instant, c'est un peu calme. Donc, vu qu'on n'a pas le droit de vraiment de communiquer sur les soldes avant, je me demande si c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de clientes qui n'étaient pas au courant que c'était les soldes aujourd'hui. Donc, on va voir si ça démarre, on espère, parce que nous, commerçants, on en a besoin. C'est une période de l'année qui est importante en termes de trésorerie, en termes de fréquentation aussi. Donc, on attend. La fréquentation a baissé, donc on peut le comprendre, on l'entend, mais je pense qu'il faut que les gens qui peuvent encore consommer continuent à consommer. Chacun à son niveau, ça peut être s'acheter une petite babiole, mais il faut continuer à consommer parce qu'avec la chute de l'économie, ben maintenant il reste pratiquement que nous, commerçants, pour faire tourner le pays. On espère que ça va aller, mais c'est compliqué. C'est une situation extrêmement compliquée parce que ben nous on est dans les vêtements c'est un peu comme la publicité. Quand il n'y a pas d'argent, ben on fait des restrictions sur ces choses-là et c'est peut-être un peu dommage.
À noter que la période des soldes se déroulera jusqu'au dimanche 22 septembre. Faire des bonnes affaires pour la bonne cause, c'est possible. Ce matin, un coup de chaud dans les locaux de la Spang. Depuis 7h et jusqu'à 11h, les bénévoles sont présents pour accueillir les visiteurs, à retrouver sur place de la vaisselle, des vêtements, des livres, des jouets, mais aussi des plantes. La brocante est d'autant plus importante pour la Spang que les difficultés financières s'accumulent. La Spang qui accueille toujours des animaux. Muriel Gauthier est la vice-présidente de la Spang.
La dernière brocante était au mois de mars. Le refuge étant fermé, nous avons très peu de rentrées financières. Donc la brocante, c'est un des moyens d'avoir un petit peu d'argent pour payer les factures, parce que nous avons encore actuellement à la Spank près de 130 animaux, chiens et chats, qu'il faut soigner tous les jours, les nourrir et puis payer bien sûr les salariés qui s'occupent de nettoyer et qui s'occupent d'eux.
Notez qu'en ce jour consacré à la braderie, il ne sera pas possible d'adopter des animaux. Il faudra pour cela prendre rendez-vous avec les bénévoles. Et puis la braderie de la Reine du Sud est de retour à Païta. C'est de 9h à 13h. Les chineurs pourront profiter de nombreux articles à bon prix et d'un mini-marché sur place avec une nouveauté, une scène ouverte. Les activités culturelles redémarrent. Un concert en deux parties dirigé par Vincent Adragnin intitulé Piano, cordes et chaussons a eu lieu hier après-midi au Conservatoire de danse et de musique. L'occasion pour les Calédoniens de découvrir l'univers de Chausson, un compositeur de la seconde moitié du 19e siècle. La salle était comble avec les fans de musique classique.
Ça fait surtout plaisir de pouvoir se retrouver au conservatoire.
Et à chaque fois, c'est très bien. On vient avec les enfants qui sont élèves ici et ils sont très contents aussi. Et c'est bien. En ce moment, on a besoin un peu de spectacles comme ça pour se divertir et c'est très bien.
Ça fait du bien de voir quelque chose de beau dans un contexte actuel.
Franchement, ça fait du bien. Un peu de musique classique jouée par des grands musiciens. Donc c'est vraiment très agréable.
Un très très haut niveau et franchement, un moment magique et agréable.
Ils sont vraiment impressionnants. Les musiciens. Et je pensais qu'ils avaient des partitions, mais non, toutes de tête. Non, vraiment, ça fait du bien.
On a l'impression d'avoir des virtuoses devant nous, alors qu'ils sont là parmi nous en Nouvelle-Calédonie. Et puis, c'est quand même chouette de pouvoir avoir cet honneur en étant à Nouméa.
Vincent Adragnin qui anime, on le rappelle, l'heure classique sur RRB, c'est tous les samedis à 13h. 7h23, une dernière pause dans ce journal avant de développer nos pages sport.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et celle du sport, Isabelle Pelletier.
Oui, et la une de cette actualité sportive, la flamme des Jeux Paralympiques qui a été officiellement allumée aujourd'hui, Mickaël Juniski.
La flamme allumée à Stockmanville, en Grande-Bretagne, berceau du mouvement paralympique. Deux paralympiens britanniques, Helen Rainsford, championne de paracanoë en 2008, et Grigor Iwan, qui a participé à trois des éditions de ces Jeux Paralympiques en curling fauteuil, ont été donc les deux premiers à avoir le feu sacré entre les mains. Andrew Parson, le président du Comité international paralympique, a ensuite effectué un court circuit autour de la piste d'athlétisme de Stockmanville avec une torche. La flamme commencera son périple en France ce soir après avoir traversé la Manche.
Du football avec la suite de la deuxième journée du championnat de France.
Et tout d'abord, cette victoire de Monaco sur le terrain de Lyon, 2-0. Les Monégasques ont maîtrisé leur sujet pour rester invaincus depuis le début du championnat, même en ayant joué les dernières secondes à 10 contre 11. Les buts sont signés Lamine Camara et Elias Benseguir. On écoute ce dernier.
On gagne avec la manière, avec deux buts. Ça va faire le troisième match qu'on enchaîne avec des clean sheets en comptant le Barcelone. Et ça montre notre manière de jouer, attaquer sans encaisser de buts. et essayer d'être le plus efficace possible.
Autre résultat du jour, Lille qui l'a emporté sur Angers, 2-0 également, avec des réalisations signées Meunier et Bayot. Un dernier match est en cours ce dimanche. Saint-Étienne accueille Le Havre. Le score est de 1-0 en faveur des Havrais après 60 minutes de jeu. Je rappelle qu'hier, le PSG avait surclassé Montpellier sur le score de 6-0.
Du cyclisme avec le Tour d'Espagne.
La 8e étape de la Vuelta aura vu la victoire de Primoz Roglic, le Slovène qui a repris au passage les commandes du classement général. Il a devancé aujourd'hui l'Espagnol Enric Mas. Avec ce succès, il reprend 56 secondes d'avance sur l'Australien Ben O'Connor qui roulait toujours avec le maillot rouge de leader. Le meilleur Français dans le tableau est David Gaudu. Il est en 16e position. Ce soir, le peloton s'attaquera à une étape montagneuse longue de 179 km jusqu'à Grenade.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et la F1, Mickaël, avec le Grand Prix des Pays-Bas.
C'est le Britannique Lando Norris qui a signé la pole position. Il a devancé le Néerlandais, triple champion du monde en titre, Max Verstappen sur Red Bull. L'autre McLaren d'Oscar Piastri s'est classé troisième. George Russell sur Mercedes et Sergio Perez sur Red Bull complètent le top 5. Alors que Lewis Hamilton n'a signé que le 11e temps, avec en plus une pénalité pour gêne durant les qualifications. Ça le fera partir de la 17e place sur la grille de départ. Côté français, Pierre Gasly a réussi à terminé dans le top 10 au volant de son Alpine.
On arrive à passer en Q3 juste devant une Ferrari et une Mercedes et voilà, ça va être je penserais clairement le maximum qu'on pouvait faire avec la voiture. Maintenant, le prochain challenge, ça va être essayer de rester dans le top 10 pour demain. Voilà, on sait que pour l'instant on a une voiture qui n'est pas aussi performante qu'on voudrait, mais il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de choses qui vont arriver et je suis sûr que l'avenir sera meilleur pour nous.
Et moins de réussite pour Esteban Ocon sur l'autre monoplace de l'écurie française. Il n'a signé que le 17e temps. Le Grand Prix des Pays-Bas sera à suivre à partir de minuit ce soir.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Le sport en Calédonie du tennis avec la finale du club du Receiving.
On connaît l'affiche du duel pour le titre. Nicolas Ngodrella affrontera Anthony Ascuaga. Les deux joueurs ont remporté hier leur demi-finale. François Fourtier est le juge arbitre du tournoi.
Le club recherchait une petite remise en forme après les événements que l'on connaît. Donc ça permet aux joueurs d'oublier un petit peu tous les problèmes courants et ça leur permet de dégager l'esprit puis de respirer un peu quoi. Chez les messieurs donc on a la finale Nicolas Ngodrella contre Anthony Ascuaga. Nicolas lui il est 4-6 et Anthony est 15, donc ça va faire un beau match, je pense que ça va faire un beau match. Pour les demi-finales on avait beaucoup de monde, donc pour la finale j'espère qu'on aura encore plus de monde.
Et la finale du tournoi du club du Receiving sera à suivre cet après-midi, coup d'envoi à 15h.
Il y avait aussi du padel, Mickaël.
Oui, toujours au Receiving, le club organisait également son tournoi P25 messieurs de padel seulement deux semaines après les championnats de Calédonie qui avaient déjà réuni près de 200 joueurs sur deux week-ends d'affilée. La discipline se porte bien, comme nous l'a dit Stéphane de Gaillan, juge arbitre du tournoi du Receiving.
4 minutes pour inscrire 16 équipes au niveau du temps d'inscription et puis une grosse émulation, tout le monde s'amuse bien. Et, en fait, ils sont très demandeurs et plus on en propose et plus ils en veulent. Et le calendrier de la saison 2024-2025 vient de sortir avec, sur la fin d'année, pas moins de 6 ou 7 tournois au moins organisés et à venir.
Et sur ces deux journées de compétition au club du Receiving, 16 équipes étaient engagées.
Et puis on jette un coup d'œil au reste de l'actualité sportive.
Une reprise aujourd'hui de l'équitation, le Yala Ranch de Dimbé accueillera le CSO fédéral, premier concours de saut d'obstacles depuis le début de la crise, au programme des épreuves préparatoires et des épreuves amateurs. C'est également ouvert au public. Il y a aussi de la voile avec la 4e étape du challenge croiseur Sirius Solar NC au cercle nautique calédonien. Et puis hors du territoire, une bonne nouvelle pour la traileuse Angélique Plaire. Elle a remporté le Grand Raid des Pyrénées, plus précisément le Tour des Cirques, sur une distance de 122 km et 7400 mètres de dénivelé positif. Le temps final d'Angélique Plaire, 23h35 et 10 secondes.
Merci Mickaël. 7h29, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo avec vous Nicolas.
Alors, ce matin, sur la pointe sud de l'île des Pins et le sud des Loyautés, les passages nuageux se feront plus nombreux et apporteront quelques averses, en particulier sur l'extrême sud. Ailleurs, le soleil dominera encore, l'alizée de secteur sud-est s'établira de 10 à 15 nœuds, mais restera plus faible sur la majeure partie de la côte est, entre 5 et 10 nœuds. Cet après-midi, grand soleil sur le nord de la Grande Terre, ailleurs, les passages nuageux seront plus présents et donneront quelques ondées, en particulier sur l'extrême sud. L'alizée de secteur sud-est se renforcera autour des 15 nœuds et presque jusqu'à 20 nœuds sur le nord-ouest et le sud-est. Il restera plus faible sur le nord-est de l'ordre de 10 nœuds. Les températures de la journée resteront stables, allant généralement de 27 à 28 degrés.
Merci beaucoup Nicolas pour votre météo et pour la technique. Il est 7h30, c'est la fin de ce journal.